Et c'est un auteur que je reçois dans ce magazine aujourd'hui. Il vient nous présenter son livre « Nous sommes tous smicards ». S-M-I-C apostrophe A-R-T, récemment publié aux éditions Maya. Ce roman est une satire sur le monde de l'art contemporain où l'humour se mêle à des réflexions sur la honte culturelle et notre rapport à l'altérité. Étienne Chambrelan, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes écrivain, auteur de romans. J'aimerais qu'on parle de votre parcours. Vous avez beaucoup voyagé, paraît-il.
Oui, c'est vrai que dès l'âge de 30 ans, j'ai le besoin de partir. Et donc, je pars directement le plus loin possible, et en Polynésie, à Tahiti même, et dans les îles où je suis là-bas, éducateur spécialisé. Je travaille aussi près des jeunes en difficulté, en prison. Je travaille avec la prison de Papeete pour essayer de réinsérer des jeunes là-bas qui ont eu quelques difficultés dans leur vie. Voilà. Je suis parti ensuite au Maroc,
oui.
Hein, là où j'ai un peu plus eu de mal à trouver du travail. Mais,
et vous avez trouvé ?
J'ai trouvé...
Plus ou moins,
voilà. Je fais un petit peu de blague partout, à droite, à gauche, quelques cours de tennis, des petits remplacements, l'éducation nationale, comme ça. Mais je n'ai pas réussi vraiment à trouver quelque chose. J'ai fait quand même, là, durant 3 années, j'étais moniteur de voile. Voilà.
Vous aimez beaucoup le sport ?
Oui. C'est comme ça que j'ai pu vivre un petit peu ma jeunesse, mon adolescence. Et c'est le sport qui a fait que j'ai pu trouver un petit refuge là-dedans pour avoir une reconnaissance. Voilà.
Et vous êtes arrivé chez nous dans l'Hérault au début des années 90,
c'est oui, ça ? C'est cela. Étant parti de Normandie pour aller en Polynésie, puis au Maroc, j'ai trouvé que c'était un bel endroit pour bien y vivre. Hein. On est quand même assez privilégié, il faut dire, dans cette région.
Et pour vous épanouir.
Oui.
Et c'est de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes tous smicards, c'est à travers une histoire, on va dire, rocambolesque, avec des personnages pittoresques. Vous nous proposez une exploration à la fois impertinente et touchante de notre société et de ses absurdités.
Oui. Alors, il faut bien comprendre que c'est une satire, quand même. Hein. C'est une satire, c'est un angle qui va dévoiler toutes les absurdités de ce monde et de notre monde, effectivement. Parce que, de toute façon, je ne suis pas qualifié pour faire une critique artistique. Hein. Bien sûr, l'art a ses bons côtés. Mais là, je vais vite dans une aventure, rocambolesque, où l'absurdité frôle la réalité. Effectivement.
Et il y en a qui sortent du lot, des absurdités ?
Oh, écoutez, dernièrement, vous savez qu'on a vendu une banane scotchée.
C'est quoi ?
Une banane, la fameuse banane scotchée vendue aux enchères pour la somme de 6 millions de dollars. Ce sont les choses incroyables. C'est Maurizio Cattelan, un Italien réputé. Vous savez, quand on est réputé, on peut faire n'importe quoi. Hein. C'est choquant, je pense, de vendre une banane à 65 millions de dollars. Ça fait partie de ce monde absurde, là, où c'est des millions de gens qui crèvent de faim. Et on en est là dans l'art. C'est le mauvais côté de l'art, évidemment. C'est vraiment son mauvais côté, voilà. Voyez-vous, Jean-Pierre, si vous aviez vendu votre virus grippal...
Oui, mais moi, je ne suis pas célèbre. C'est un petit peu comme la culotte de Madonna ou bien les stylos que Donald Trump a récemment jetés dans la foule. Peut-être que ces stylos vont valoir des fortunes.
Oui.
Bientôt.
Oui. Mais c'est ce qui est arrivé à Edmond Desgens, les deux principaux personnages du livre. Hein, voilà, ils peuvent tous se permettre à un moment donné parce que... Ils ont touché la grâce, comme ça. Ils ont été reconnus d'une façon involontaire. Et ils organisent une exposition qui va devenir le centre du monde. Et nos deux besogneux se retrouvent là à causer avec les plus grands de ce monde. J'en passe, c'est des meilleurs. Vous avez Obama, Poutine, le pape François. Edmond a une relation, non pas avec le pape François, hein. Mon Dieu, on n'a pas été jusque-là. on n'a pas été loin. En tout cas, elle a eu une petite relation avec Xi Jinping, le président chinois, c'est peu dire.
J'aimerais bien, si c'est possible, Étienne Chambrelin, de nous lire un passage ou des extraits de votre livre. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'ai choisi une page, là, comme
On est aux trois quarts de la fin, je vois, non,
oui,
à peu près.
Oui, la page 176.
Oui.
Oui, oui. Donc, ça commence par « Jean éprouve une émotion évaluée à 3 sur 10, ressentie à 12 sur 10. » Edmond lui demande à son Jean, « À quoi penses-tu, Jean ? À toi. À moi ? Oui, toi. Oh ! » Là, Edmond est ému. Nota. Là, nous vivons un grand moment de la littérature. Comment le prolonger ? Concentrez-vous, Élisée, merci. Donc, Jean dit, « Je vais t'immortaliser, Edmond, et t'exposer au monde. » Oh, mon Jean, mon mien, je te ramène de suite à l'hôpital. Tu n'es pas encore remis de ton coma. Mais non, non, mon aimé, ma mienne. Si, si, ceci est nécessaire. Cette expo te monte à la tête. En ce moment, tu changes. Tu ne me regardes plus. Mais dis-moi quelle robe je portais ce matin. Ta robe ? Mais c'était ta robe à petits pois rouges, celle que tu avais mise pour l'arrivée de Richard Virenque au sommet du Mont Ventoux. C'était le 18 janvier 2002. Tu avais tes petites sandalettes à pois bleus, tes soquettes jaunes et ton petit ruban rouge t'allait tellement bien. La veille, au petit matin, en position grimpette, tu t'étais donné à moi, pour la vie entière. Il était 6h57 exactement. Rappelle-toi, je t'ai dit, oh qu'il est mignon ce petit grain de beauté sur ton doigt de pied. Je te découvrais et le couvrais de baisers et je... Oh, arrête Jean, arrête. Je t'en supplie, continue. Non, arrête, arrête. On va finir par nous lire.
Je vois que vous aimez beaucoup la lecture, l'écriture. Quels sont les auteurs qui vous inspirent ?
Figurez-vous, Jean-Pierre, que j'ai lu mon premier livre à l'âge de 30 ans. Ça va vous paraître surprenant.
Ça ne me surprend pas, non.
Non.
Non, non.
Ouais. Ouais. J'ai rencontré une personne en Polynésie, j'avais là 30 ans, à qui je donnais quelques cours de tennis comme ça, parce que c'était un prof de français. Et je déconnais toujours avec lui. Et puis un jour, il m'a amené un livre. Il m'a dit, il faut que tu lises, toi. Et il m'a amené le livre de Marguerite Duras, Le marin de Gibraltar. Alors nous étions là en Polynésie, j'ai lu ce livre. C'était mon premier livre, mais je l'ai en tête, toujours vraiment. C'est ce qui m'a permis. Voilà. Les rencontres.
C'est vrai qu'on se souvient bien de son premier livre, le mien en particulier, c'était oui. Chronique martienne de Ray Bradbury.
Ouf, je ne connais pas. Mmh. Ah, oui, d'accord. Mmh. Ouais. Oui, oui, je m'en souviens de ce premier livre. Et il ne s'était pas trompé, je veux dire. Il savait. Vous savez, il y a des rencontres. C'était un prof, il y a des beaux profs qui vont vous saisir un petit peu, qui vont comprendre qui vous êtes et qui vont vous donner un petit coup de main quelque part. Voilà. Il y a des profs qui ont un petit plus, c'est clair.
Étienne, vous aimez le sport, vous aimez la lecture, l'écriture, mais vous aimez aussi la peinture et la sculpture.
Oui, alors dès l'âge de 50 ans, après avoir fait tous ces métiers, mais surtout, je vous ai dit, le social et l'humanitaire, j'ai sculpté. J'étais encore quelqu'un de très, très, très inhibé, où j'avais du mal encore à parler. Donc, il a fallu que je... Vous savez, quand on est mal, on a besoin de créer un autre monde. Bon, c'est facile ce que je vous dis, hein, c'est de l'entendu d'un peu de partout, mais c'est vrai. Ce besoin incroyable de créer autre chose qui nous convienne, et la sculpture m'a convenu, effectivement. Pendant 20 ans, j'ai sculpté, j'ai peint, j'ai vendu peu, un peu, beaucoup. J'étais un peu partout, à droite, à gauche. Même si je n'ai pas su en faire une grande... du moins y gagner beaucoup d'argent. Ce problème-là, hein, c'est le problème de la vente. Quand on est un peu trop inhibé, on a beaucoup de mal à vendre, à se vendre. C'est quelque chose de compliqué, tout ça.
Très introverti dans votre jeunesse, vous aviez des difficultés à vous exprimer.
Oui, oui, oui. Oui. C'est comme ça, c'est la vie. J'étais paralysé par le monde, j'avais peur. La peur est le mot qui revenait tout le temps. Et c'était ce que je ressentais toujours. C'est pourquoi, vous savez, on n'a jamais su.
Alors, j'ai regardé un petit peu hein, sur Internet, en tapant votre nom, et j'ai vu un livre qui s'appelle « Du désiré écrire à l'écrit désiré ». Vous êtes auteur aussi ?
Oui. Oui, voilà. Oui, c'est un livre que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à arrêter tout, mon métier d'éducateur social. J'ai commencé par ça. « Du désiré écrire à l'écrit désiré ». La sculpture peut être une écriture, la peinture peut être une écriture, n'est-ce pas ? La musique est une écriture. Et il me fallait effectivement absolument écrire, et ça c'est parti par la sculpture, parce que de par ma culture, l'art c'était du travail. Donc la sculpture sur bois, c'est, je le répète, c'est besogneux, c'est du travail. Je ne l'ai compris qu'après, qu'il fallait que je passe par des épreuves comme ça, besogneuses, parce que c'était ma vie. C'était celle de mon papa, ouvrier maçon, et qui travaillait, lui, 70 heures par semaine. Et voilà, pas besoin d'en dire plus.
Et dans votre milieu professionnel, vous avez beaucoup travaillé dans le social aussi ?
Oui, bien sûr.
Et ça vous a beaucoup aidé ?
Oui. Ça m'a beaucoup aidé à me comprendre. Comprendre les autres, d'abord faire cet effort-là de comprendre les autres, ce qu'ils sont dans leurs différences. Si on est un peu...
Nous sommes tellement aussi proches et différents à la fois.
Oui, absolument. Comme dans ce livre, l'absurdité frôle la réalité. C'est pareil pour les individus, nous sommes différents et proches, c'est vrai, et on doit s'apprendre. On doit faire vraiment cet effort d'aller chercher tout ce qui est bien chez l'autre, bien évidemment. J'ai appris avec le handicap, effectivement.
Est-ce qu'il y a un autre livre sous votre plume en ce moment, Étienne Chamberlain ?
Oui, mais j'ai du mal. Je ne suis qu'un homme, je n'arrive pas à faire trois choses en même temps, moi.
Et donc, trois choses, c'est déjà pas mal. Il y en a qui n'arrivent pas à en faire deux.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai démarré quelques mots, mais là, pour l'instant, je suis tellement pris par montrer ce livre, essayer de le partager avec un maximum de personnes. Et bon... J'ai de la chance, j'ai déjà vraiment de très bons retours. Et là, ça démarre à peine que j'ai vendu 200 livres et ça me plaît beaucoup. Même si c'est un livre singulier, hein, qui n'est pas facile à lire, hein, c'est clair. Hein, j'ai été aussi encore, je pense, avoir besoin d'être un peu dans la création, dans la forme du livre, dans sa structure. Bon, c'est comme ça.
Nous sommes tous SMICA. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ?
C'est l'éditeur, hein, aux éditions Maya, vous l'aurez. Vous allez le voir dans différentes librairies, Cultura, Amazon. Et directement sur les éditions Maya, vous trouverez tout de suite les références. Vous demandez, nous sommes tous micards, les frais d'envoi sont gratuits.
Nous arrivons au terme de ce magazine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui. Je parlais de l'intelligence artificielle. Et j'en parle un petit peu. D'abord dire aussi que j'aime beaucoup, vous verrez dans ce livre, les mots comme ça qui sont voisins, qui se reniflent. Mon Jean, mon bien, je te ramène. Mes nonos, mon aimé, ma mienne. Voilà. Vous voyez, par moments, les mots comme ça s'aiment, se reniflent. J'aime les accorder. Par exemple, j'écris sans arrêt, elle désarroite. Inventer des mots aussi, si on peut. Voilà. Dans d'autres genres, par exemple, philosophiques, dire que parce que la pensée de Pascal percute les cœurs, etc., etc. J'aime beaucoup ces mots qui s'aiment, voilà. Le Graal, c'est Gainsbourg. J'avoue, j'en ai bavé, mon amour.
Et ce sera le mot de la conclusion. Merci, Étienne Chamberlain. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, Jean-Pierre.